Bonjour à tous. Toujours dans la série des actes, je vous propose de réfléchir ensemble aujourd'hui à un miracle. Un miracle de libération. Dieu agit. Et nous, quelle est notre part là-dedans? Il y a 15 jours, en parlant de Josué, Nicolas avait posé la question: quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme dans l'appel? Et il avait souligné que Dieu appelle l'homme à participer à sa mission. Eh bien, ici, nous allons voir quelque chose de semblable, mais dans un miracle. Ces derniers temps, à propos d'un vieil ami incroyant qui a été opéré, et ça ne s'est pas très bien passé, c'est pas beaucoup mieux qu'avant, je réfléchis au sens et à la portée des miracles de guérison, des miracles de libération. Dois-je prier pour la guérison de Norberto, pour sa conversion plutôt? Les deux mots, c'est le même mot dans les évangiles. Quand et pourquoi est-ce que Jésus et les apôtres ont accompli des miracles? Et quelle réaction, quelle réponse Dieu attend de nous à ces actes de puissance et de bonté? Bien sûr, si vous êtes directement concernés, vous serez sans doute ravis. Mais est-ce qu'on y voit toujours une intervention du Seigneur? Ou est-ce qu'on dit « c'est le médecin qui l'a guéri » ? Et puis, quand on est simplement témoin direct, on l'a vu dans les évangiles et dans l'acte, les témoins hésitent entre l'émerveillement et la perplexité, et parfois le refus. Et puis, 2000 ans plus tard, nous sommes simplement les auditeurs ou les lecteurs d'un miracle, ou parfois d'un miracle présent. Comment est-ce que nous allons réagir? Et finalement, question osée, à quoi sert un miracle? Le chapitre 12 des Actes, que je propose de suivre avec vous aujourd'hui, donne des réponses, ou plutôt des pistes intéressantes à cette grande question. J'arrive pas. J'ai pas fait le bon côté. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord là-dedans un récit absolument rocambolesque. Nous sommes fin avril 44. Depuis la lapidation d'Étienne, l'Église subit la persécution, aggravée d'une famine. Beaucoup de chrétiens ont fui Jérusalem, mais ni les apôtres, ni les frères de Jésus. Et c'est le moment que choisit Hérode Agrippa Ier, roi de Judée et de Samarie depuis 3 ans, pour s'en prendre aux chrétiens. Et je cite, « Il supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean. Et quand il eut constaté la satisfaction des Juifs, il fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre, les jours des pains sans levain. L'ayant fait appréhender, il le mit en prison, solidement gardé. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de la Pâque, et c'était pour le faire condamner à mort comme le Christ. Dans la nuit précédant sa comparution, alors qu'il dort paisiblement entre 2 soldats maintenus par 2 chaînes, Pierre est miraculeusement délivré de sa prison par un ange du Seigneur. Celui-ci réveille Pierre d'une bourrade, lui ordonne de se lever, de s'habiller vite et de le suivre. Pierre obéit sans hésiter. Les chaînes tombent, il passe devant 2 postes de garde, la porte extérieure de la forteresse s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils allèrent au bout de la rue et soudain, l'ange quitta Pierre. Pierre reprend ses esprits, réalise qu'il a vécu non pas une vision, mais une libération réelle, quoique miraculeuse. Alors, à travers la ville endormie, il se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, le futur évangéliste, sachant qu'il y trouvera des amis. Effectivement, dit le texte, de nombreux croyants y sont réunis et prient avec ferveur pour sa délivrance. Étrange accueil. Pierre appelle, frappe à la porte, elle ne s'ouvre pas. Une jeune servante, Rodée, reconnaît bien sa voix, mais au lieu d'ouvrir, elle court prévenir l'assemblée, qui la traite de folle. Alors Rodée insiste, mais les croyants supposent que c'est son ange, ou peut-être son esprit s'il est mort. Et il faut beaucoup qu'elle insiste pour qu'ils finissent par ouvrir, et alors ils sont frappés de stupeur en le voyant. D'un geste autoritaire, Pierre les fait taire, leur raconte le miracle et conclut « Allez l'annoncer à Jacques, le frère de Jésus, et aux autres frères. » Puis il s'en alla, dit le texte, on ne sait pas où. Et dès lors, dans les actes, c'est Paul qu'on va suivre dans tous ses voyages missionnaires. Pierre n'apparaîtra plus qu'une fois au concile de Jérusalem lorsqu'on doit traiter de l'admission des non-juifs dans l'Église. Et d'après la tradition, il mourra 20-25 ans plus tard, entre 66-68, crucifié à Rome. Le récit est haletant, il est magnifique, relisez-le à la maison. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il montre des personnages en interaction avec Dieu. Il montre que la foi et l'incrédulité s'entremêlent. Alors, quel enseignement on retire pour notre vie personnelle et notre vie communautaire? Parlons d'abord de Pierre. Comme vous le savez, avec Jean, c'est l'un des proches de Jésus. Il apparaît dans les évangiles comme le porte-parole parfois exubérant des douze. Jésus lui a fait un certain nombre de promesses, vous les connaissez. « Je ferai de toi et de ton frère des pêcheurs d'hommes. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je prie pour toi que ta foi ne disparaisse pas. » Et après le reniement et le pardon, il lui confie ses brebis et ses agneaux. Et finalement, Jésus lui a dit aussi, « Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas. » Dès la Pentecôte, comme vous le savez, par la présence intérieure du Saint-Esprit, le caractère de Pierre est transformé. Et ses promesses prennent corps. Est-ce que Pierre en a conscience? Est-ce que nous avons conscience que l'Esprit travaille en nous? En tout cas, les discours de Pierre qui sont inspirés amènent à la fois des milliers de personnes. Partout. C'est lui qui est le premier apôtre des non-juifs, Corneille et sa maisonnée, des Samaritains. Il accomplit des miracles, même une résurrection. Et lorsque le Sanhédrin le fait arrêter, une première fois, lui avec Jean, ils sont délivrés miraculeusement. Alors mourir demain, est-ce que Pierre y songe quand il est en prison? Ou est-ce qu'il pense plutôt à son maître? Nous ne savons qu'une chose, c'est qu'il dort. Il dort paisiblement. malgré l'inconfort de la position, exactement comme Jésus dans la barque sur le lac, vous vous souvenez. Est-ce qu'il pense que sa mission n'est pas achevée, que sa mort n'est pas pour demain, puisqu'il devrait être vieux, ou est-ce qu'il a tout simplement confiance, une confiance totale dans l'amour, la juste volonté et la toute-puissance de son Sauveur? Il dort en paix. Lorsque l'ange le bouscule, sont réveillés les deux soldats. Pierre n'a pas l'air surpris, malgré la lumière qui inonde sa cellule. Il obéit aux ordres, sans discuter. Et puis, ça c'est donc de ce côté-là la part de Dieu, de l'autre côté de la part de Pierre. L'ange le fait sortir à travers les portes et tout. Et Pierre, resté seul, réfléchit et agit avec discernement. Donc, l'ange a agi dans ce qui était vraiment nécessaire miraculeusement, et il laisse Pierre faire sa part. Laissé à lui-même, Pierre réalise qu'il n'a pas rêvé. Et il réagit de manière intéressante. Il se parle, il réfléchit et il agit. Il verbalise d'abord. On peut imaginer presque même à haute voix. Il se redit ce qui est arrivé pour mieux l'intégrer et en rendre gloire à Dieu. Cette fois, je comprends. C'est vrai que le Seigneur a envoyé son ange et m'a fait échapper aux mains d'Hérode et à toute la tente du peuple juif. Puis, il s'oriente et rejoint la maison de Marie et de Jean-Marc pour rassurer les croyants qu'il s'est trouvé là, mais surtout pour témoigner de ce miracle qu'il vient de vivre. Et ensuite, il les quitte et disparaît, peut-être pour entrer dans la clandestinité ou pour ne pas leur faire trop d'ennui s'il est recherché. Observons l'interaction entre Dieu et Pierre. Elle nous enseigne trois choses essentielles. Tout d'abord, Dieu n'agit jamais trop tard, même si c'est à la dernière minute. Et là, je l'ai vécu en famille l'été dernier. Quand mon fils Lionel devait aller s'établir à Paris pour travailler dans son nouveau ministère, il a attendu et cherché un appartement. Rien trouvé. Rien. Il a commandé le camion de déménagement, mis les meubles, envoyé le camion en sachant qu'il allait en direction du sud-ouest de Paris. Et c'est dans la nuit, quand le camion était déjà loin et en France, c'est dans la nuit qu'il a appris qu'il aurait l'appartement qu'il occupe actuellement. C'était quelques heures avant l'entrée dans le dit appartement. Donc, notre temps n'est pas celui de Dieu. Disons encore que Dieu aime collaborer avec nous. Nos prières, nos actions, notre témoignage. Un miracle n'est pas une action à sens unique. C'est une interaction entre la Trinité et les humains concernés, dans la mesure de leur capacité et de leur foi. Pierre a vécu des miracles. Il a guéri des gens au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Il a été libéré de prison par l'envoyé du Seigneur, qui était peut-être le Seigneur lui-même. Chaque fois, il a mis sa confiance en Christ, il a fait ce qu'il pouvait, puis il a rendu gloire à Dieu et témoigné publiquement afin d'édifier et d'encourager les spectateurs. Si l'occasion s'en présente, si nous vivons quelque chose de puissant, peut-être un miracle, nous pouvons suivre la même démarche. Dernier point, le don du Saint-Esprit a métamorphosé son caractère pour qu'il puisse remplir sa mission. il peut métamorphoser aussi notre caractère. Venons-en maintenant à l'assemblée en prière. Les nombreux chrétiens présents cette nuit-là chez Marie ne constituent qu'une partie de l'église de Jérusalem, peut-être la plus attachée à Pierre. Depuis son arrestation, dit le texte, elle prie ardemment et sans relâche pour sa libération. Le temps presse, Dieu n'intervient pas. Est-ce que Dieu laissera mourir Pierre, comme il a laissé mourir Jacques ? L'incompréhension, l'angoisse grandissent, sans doute, derrière les portes verrouillées. Et peut-être même un doute. Car lorsque le miracle survient, Pierre, en chair et en os, qui frappe à la porte, il n'y croit pas. Il cherche des explications logiques, raisonnables, comme nous avons tendance à le faire. Rodé est traitée de folle. Elle a peut-être eu une hallucination. Elle a entendu la voix de l'ange gardien de Pierre, ou son esprit, c'était une croyance de l'époque, quand quelqu'un était mort. Donc au lieu de joie, c'est l'incrédulité et même le désespoir. Ne trouvez-vous pas ça paradoxal? Ces gens sont pleins de foi, mais ils se sont laissés dominer par la peur. Contrairement à Pierre dans sa prison, qui dormait paisiblement, eux ont oublié la promesse de Jésus. « Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Leur foi, leur confiance en Dieu semble avoir fondu. Ils restent paralysés. Hérodé, la petite servante, doit insister pour qu'ils se décident à bouger. Jésus avait dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais même la vue de Pierre ne les convainc pas immédiatement. Les différentes versions disent qu'ils étaient hors d'eux-mêmes, stupéfaits, tout étonnés. Ils n'en revenaient pas. Et Pierre doit leur raconter l'évasion pour qu'ils acceptent qu'il est là en chair et en os. Est-ce qu'ils ont ensuite glorifié Dieu pour cette libération qu'ils avaient tant espérée? L'ont-ils remercié, sauté de joie? Le texte n'en dit rien. Alors qu'apprenons-nous de cette communauté qui est très semblable à la nôtre? Que l'Église, hier comme aujourd'hui, est affaiblie par le doute. Dieu voudra-t-il intervenir? Nous écoute-t-il? Où est sa volonté? Pourquoi, pour qui devons-nous prier? Ces questions sont peut-être légitimes, mais elles sont certainement paralysantes. Malgré la prière, doute et crainte peuvent miner notre foi et nous empêcher d'agir pour remplir notre appel au service du Christ. Nous apprenons aussi que pour nous en libérer, il n'y a qu'une solution, me semble-t-il. C'est se nourrir de la parole. Méditer les promesses de Dieu dans la Bible, ses accomplissements passés et actuels, et y voir la réalité. Puis peut-être aussi lui demander d'augmenter notre foi. Jésus nous a promis une réponse, nous l'avons chantée tout à l'heure, nous en avons parlé dans la louange, mais cette réponse n'est pas forcément celle que nous attendions. Alors il faut rester aux aguets et se préparer à la discerner, cette réponse, et à l'accepter humblement. Quelqu'un a écrit « Dieu peut agir sans notre prière, mais il veut que nos pensées et notre foi soient en activité devant lui et avec lui à l'égard de ce qui tourmente nos cœurs. » Et maintenant, Rodé, ça veut dire rose en grec. C'est joli comme nom. Que fait-elle là-dedans? J'y vois un exemple de foi claire et humble. cette foi qui renverse les montagnes de la raison incrédule. C'est une simple servante, peut-être même une esclave, chez Marie. Pourtant, Luc lui donne un nom, une identité. Il dépeint un caractère frais et spontané. Lorsque Pierre arrive, je cite, « elle reconnut sa voix et du coup, dans sa joie, elle n'ouvrit pas la porte, mais rentra en courant pour annoncer que Pierre était là devant le portail. » Sans doute est-il un habitué des lieux. Rose est certainement chrétienne. Sa patronne a dû amener au baptême toute la maisonnée, comme chez Corneille ou chez Lydie. Elle partage donc l'inquiétude des personnes présentes. Sa maîtresse lui a confié la surveillance de la porte extérieure. Dans une période de persécution, elle lui a peut-être même dit « n'ouvre surtout à personne ». Alors, Rose est-elle une petite écervelée, comme nous aurions tendance à le croire en suivant l'assemblée qui la traite de folle, ce qui, en parenthèse, n'est pas très gentil. Mais elle est aussi courageuse et obstinée. Malgré son statut social inférieur, elle ose insister. Le texte dit « c'est vrai !» et elle n'en démordait pas. On l'imagine même trépignée d'impatience. Et elle finit par avoir gain de cause. Est-ce que cet épisode ne vous en rappelle pas un autre, celui du matin de la résurrection, où les disciples avaient aussi récusé le témoignage de femmes en disant « absurde !» Donc, la logique humaine avait rejeté la possibilité du miracle. Un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, accompli par la puissance de Dieu. Alors qu'apprenons-nous de Rodée en interaction avec les croyants? D'abord, je pense, la foi claire, l'amour et la joie peuvent vaincre l'incrédulité née de la crainte et qui s'appuie sur une logique rationnelle purement humaine. L'erreur des croyants, interrompus dans leur prière, c'est d'avoir laissé leur confiance, leur foi, leur espérance s'amenuiser au fil des heures. C'est d'avoir négligé de prendre en compte la toute-puissance de Dieu, sa fidélité. Le Créateur de l'univers, le vivant, ne se laisse pas arrêter par des forteresses matérielles ou spirituelles. Il transcende notre logique et nos connaissances intellectuelles. Ce qui est vrai ou possible pour nous est loin en dessous des possibilités divines. Le royaume existe dans une autre dimension que notre monde, mais il s'en approche parfois, justement à travers un miracle ou un pas de foi. La jeune Rodée ne s'est pas demandé s'il était possible que Pierre soit là ou comment ça se faisait. Elle l'a juste cru après l'avoir entendu, cru de tout son cœur. Elle se fichait bien des explications scientifiques que lui opposait l'Assemblée. Notons encore que la foi de Rodée s'est immédiatement traduite en acte. Elle n'a peut-être pas ouvert la porte, mais elle a été chercher les autres. Et devant leur incrédulité, elle a proclamé haut et fort et avec insistance la bonne nouvelle dont elle était porteuse. Elle ne s'est pas laissée décourager par les critiques ou les raisonnements de ses supérieurs. Et elle a réussi à les faire bouger. Comme l'écrit un commentateur, c'est l'une de ces héroïnes de l'ombre dont l'humble détermination a permis le développement fulgurant de l'Église primitive. Alors, à quoi servent les miracles? Grande question. Nous avons tous expérimenté que Dieu ne répond pas positivement à toutes nos demandes de guérison ou de libération miraculeuse, fussent-elles ferventes. Jacques n'a pas été sauvé de la mort alors que Pierre l'était. Pourquoi ? C'est une question poignante qu'il nous arrive aussi de rencontrer. Elle n'a pas de réponse ici-bas. Dieu choisit d'accomplir ou non un miracle indépendamment de notre foi, personnelle ou en Église, ou de la foi de la personne concernée. Seul compte ses projets de salut pour l'humanité, pas notre confort personnel. Jésus lui-même a refusé d'accomplir parfois des miracles sur commande, notamment dans sa propre ville, Nazareth. Il n'a pas voulu donner des signes à ceux dont il savait qu'il n'y verrait pas la puissance et l'amour de Dieu à l'œuvre. Il a donc su qu'il ne se convertirait pas et qu'il garderait la même dureté de cœur. Alors un miracle, non. Les disciples envoyés par Jésus et puis les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont eu la foi et la volonté d'accomplir à leur tour des miracles au nom de Jésus de Nazareth. Vous connaissez le résultat, c'est la conversion de milliers de personnes. C'est là, me semble-t-il, le but d'un miracle, révéler à travers Jésus-Christ la puissance de Dieu et son amour pour les hommes, les ramener à lui. C'est ainsi qu'à travers un miracle, nous pouvons dire comme Jésus, le royaume s'est approché. De nos jours, en tout cas en Europe, on parle rarement de miracles et avec beaucoup de prudence. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont inexistants ? Ou est-ce que, comme l'Église de Jérusalem dont je parlais, avons-nous de la peine à les reconnaître et à les accepter en nous retranchant derrière des raisonnements logiques ou scientifiques ? Mais peut-être que simplement nous n'avons pas assez confiance que Dieu agira avec nous, à travers nous, si nous cherchons à collaborer avec lui. Alors, que pouvons-nous en conclure ? Si nous prions avec authenticité et humblement, en reconnaissant nos peines et nos doutes, Dieu nous entend et il agit. J'aime ce verset, ce cri du cœur d'un père dans l'Évangile. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Dieu nous demande aussi de collaborer à ses plans comme individus, à travers notre vie ou notre ministère, mais aussi en tant qu'Église et communauté. Ainsi, Pierre a réussi son évasion en suivant sans discuter les consignes données par l'ange et puis en faisant preuve de discernement et de sagesse. C'est le fruit de l'esprit. Rodé y a participé aussi, par sa foi vive et agissante. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas entendu Pierre ou n'y avait pas cru ? Nous avons là deux modèles de chrétiens. La jeune convertie, tout feu tout flamme dans sa simplicité, et le croyant, mûri par les épreuves qui ont consolidé sa foi. Entre deux, eh bien, cette communauté de gens qui nous ressemblent, partagés entre la crainte et l'espoir, la foi et le doute paralysant. Comme eux, nous pouvons nous secouer, bouger. Finalement, que nous dit le Seigneur à travers cet épisode, individuellement ou à nous tous ? Ayez foi en moi, recevez ma paix, je gère toute la situation. Je vous accompagne tous les jours de votre vie, quoi qu'il arrive. Ayez confiance, allez de l'avant pour accomplir la mission dont je vous ai chargé, comme Pierre. Rayonnez de mon amour et annoncez la bonne nouvelle à ceux qui l'attendent désespérément, comme Rodé. Mettez-vous en marche, comme l'Assemblée. Maintenant, nous pouvons prier.
Merci beaucoup. J'aimerais simplement vous